est 15h10 dans nos studios à Paris et 9h10 à Port-au-Prince, le journal d'Haïti et des Amériques avec Marie Normand. Bonjour Marie.
Bonjour Juliette et bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, l'Équateur avec l'espoir d'un retour au calme après la plus longue grève générale indigène de l'histoire du pays. Un accord a donc été trouvé, mais les réactions, vous l'entendrez, des manifestants sont mitigées. Harim Lipold nous a rejoint en studio, on fera le tour avec lui des réactions dans la presse. Autre titre encore, une décision controversée de la Cour suprême, décision dévastatrice si l'on en croit la Maison Blanche. La Cour a choisi de limiter les moyens fédéraux de lutte contre le réchauffement climatique. On parlera aussi de la situation des mères célibataires en Haïti, du Texas où la communauté afro-américaine est au chevet de ses cimetières pour que l'histoire des anciens esclaves ne s'efface pas. Et puis le journal de la première, Benoît Ferrand, vous nous parlerez d'un nouveau dispositif pour les jeunes précaires en Martinique.
Un dispositif devient ce que tu es, un revenu 500 à 700 euros pour leur permettre de tester une nouvelle activité.
Merci Benoît et à tout à l'heure.
RFI à Cuenca, 104.9 FM.
Un accord donc arraché après 18 jours de crise en Équateur. Des manifestations, des blocages de routes pour protester entre autres contre la hausse des prix du carburant. Sur ce point, les protestataires ont obtenu une baisse de 15 centimes. Mais d'autres questions restent en suspens. Résultat des réactions en demi-teinte des manifestants recueillis par notre envoyée spéciale à Quito, Alice Campagnol.
À l'extérieur du bâtiment de la conférence épiscopale, ils étaient des centaines de manifestants à s'être réunis attendant les résultats du dialogue. Un accord a été signé, mais non sans douleur. On a vu Leonidas Issa, le leader indigène, douter, hésitant à apposer sa signature, mais il a finalement accepté l'ensemble des mesures proposées, dont une baisse du prix de l'essence moindre que celle de 40 centimes exigée. Une victoire pour certains, comme pour Dani.
Ça a été une très grande bataille dans l'histoire. C'est la plus longue grève générale du mouvement indigène. Et il y a des résultats. On ne peut pas continuer car l'économie est en récession.
Pour d'autres, la déception est immense. Dolores a la sensation d'avoir obtenu trop peu. Par exemple, rien pour le moment concernant l'arrêt de la privatisation des entreprises du secteur public.
Je suis indignée. Vous vous rendez compte, ce sont des jours et des jours de lutte. C'est nous, le peuple. C'est nous qui devrions exiger des choses au gouvernement et non pas accepter les miettes qu'il nous laisse.
Il est temps désormais pour tous les manifestants, indigènes, ouvriers, étudiants, de reprendre une vie normale après 18 jours de blocages et de manifestations. Alice Campagnol, Quito, RFI.
La plus longue grève générale indigène de l'histoire de l'Équateur, des promesses que le gouvernement va maintenant devoir tenir malgré l'inflation et la fin d'un face-à-face entre d'un côté Leonidas Issa, chef de la CONAIE, la Confédération des Nationalités Indigènes, et de l'autre le président Guillermo Lasso. Alors qui sort gagnant de cette crise? Eh bien personne, répond Emmanuel Sinardet. Elle est professeure de civilisation latino-américaine à l'Université Paris-Nanterre.
Les représentants du gouvernement et M. Lasso se présentent comme ayant été capables de dialogue et d'écoute. Je crois que 18 jours et presque une dizaine de morts semblent montrer le contraire. Il me semble que M. Lasso est encore plus affaibli. S'agissant de celui qui s'est présenté comme son principal opposant et qui est donc le président de la CONAIE, M. Leonidas Issa. Il présente cet accord comme une victoire. Il parle même, je cite et je traduis, de triomphe. Eh bien, il semble que cet accord n'ait pas fait immédiatement l'unanimité au sein de ces différents mouvements.
Des propos recueillis par Muriel Paradon. Je me tourne maintenant vers vous, Harim Lipold, bonjour.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Alors le ton est au soulagement dans la presse équatorienne.
Oui, voilà le moment que tous les Équatoriens attendaient avec impatience, écrit El Comercio. Mais le compromis laissera des traces, estime l'éditorialiste du journal. Après 18 jours de conflit, la société équatorienne est plus divisée que jamais. Selon El Universo, une minorité, à savoir les indigènes qui représentent environ 7% de la population, a réussi à imposer sa position à la majorité, une majorité qui a dû subir impuissante les conséquences des manifestations. El Universo concède toutefois que les indigènes vivent dans une situation d'injustice et d'humiliation permanente. Le journal recommande au gouvernement de mettre en place une fois pour toutes une stratégie pour permettre le développement durable de ces communautés indigènes.
Il est 9h15 à Washington.
RFI.
En quelques jours, la Cour suprême a fait preuve de sa nouvelle majorité conservatrice sur l'avortement, sur le port d'armes et hier sur le changement climatique. Elle vient en effet de limiter les moyens fédéraux de lutte contre le réchauffement. Désormais, l'Agence pour la protection de l'environnement, l'EPA, ne pourra plus édicter de règles pour réguler les émissions des centrales à charbon. Écoutez ce qu'en dit Jacques Lecacheux, il est professeur d'économie à l'Université de Pau.
Depuis 2015, Obama avait réussi à faire voter par le Congrès justement des pouvoirs conférés à l'EPA pour pouvoir réguler ça à l'échelon fédéral et donc obliger les États, y compris les États récalcitrants, à réduire leurs émissions. Et là, ça bat en brèche cette possibilité. Les États américains vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et ça, évidemment, c'est une grande victoire pour les producteurs de charbon et d'énergie fossile aux États-Unis et une grande défaite pour le climat. Hein.
Et beaucoup de réactions à Henri Mipold dans la presse américaine.
Oui, c'est une victoire pour les conservateurs libertariens qui, depuis des décennies, défendent un État minimal, écrit par exemple le New York Times. Mais certaines autorités locales, Marie, ont déjà annoncé entrer en résistance contre l'arrêt de la Cour suprême. C'est le cas de la Californie. Un climatologue interviewé par le Los Angeles Times estime que les États gardent toujours d'importants leviers politiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ils ont par exemple le pouvoir de mettre en place des énergies renouvelables ou de limiter les émissions des véhicules.
Vous avez repéré un autre sujet dans la presse nord-américaine, Arim, c'est l'affaire Emmett Till qui refait surface.
Oui, Emmett Till, c'était un jeune afro-américain de 14 ans, torturé et tué en 1955, donc il y a presque 70 ans dans l'état du Mississippi. Il aurait fait des avances à caractère sexuel à une dame blanche mariée qu'il avait rencontrée dans une épicerie, selon le témoignage de cette dernière. Son mari est le demi-frère de celui-ci, décide alors de venger ce qu'il considère comme un affront, kidnappe le jeune noir, le bat sauvagement et le tue d'une balle dans la tête avant de jeter le corps dans une rivière. Personne n'a été condamné pour ce crime.
Et pourtant, il y a quelques années, la justice a rouvert l'enquête.
Effectivement, car Caroline Bryant, la femme qui avait dénoncé le comportement du jeune garçon, est revenue sur son témoignage, disant qu'Emmett Till ne lui avait jamais fait d'avance. L'enquête a été une nouvelle fois refermée l'an dernier, mais une équipe privée, composée entre autres des membres de la famille d'Emmett Till, a continué le travail, visiblement avec succès, car d'après le Washington Post, elle a trouvé un vieux mandat d'arrêt contre Karen Bryant datant de 1955 qui n'a jamais été exécuté. Du coup, la famille d'Emmett Till demande aujourd'hui l'arrestation de celle qui fut à l'origine du kidnapping mortel. Octogénaire Karen Bryant vit aujourd'hui en Caroline du Nord et d'après le Washington Post, la police américaine pourrait effectivement exécuter le mandat d'arrêt même avec 50 ans de retard.
Et puis un mot d'Haïti pour finir. 20 jours qu'un groupe armé s'est installé au palais de justice de Port-au-Prince.
Oui, exactement. Les malfrats se pavanent aujourd'hui d'un cabinet d'instruction à l'autre en toute quiétude et en toute impunité, explique le Nouvelliste. Conséquence, les habitants de Port-au-Prince n'ont pas accès à la justice, même sous sa forme la plus élémentaire.
Marie. Merci Arim Lipold pour cette revue de presse à retrouver, comme chaque jour, sur RFI.fr. On reste en Haïti, justement, où les mères célibataires sont livrées à elles-mêmes, le plus souvent aux gonaïves et des femmes abandonnées par leur mari avec deux ou trois enfants à charge. N'ont d'autre choix que de travailler dans des carrières sauvages de sable. Un travail très difficile, dangereux aussi, car un éboulement de terrain peut se produire à tout moment. Reportage signé Ronel Paul.
Il est 10h du matin. Nous sommes à la Approchée, une colline située à quelques kilomètres au nord-ouest des Gonaïves. Tout autour du lit d'une rivière aride, une dizaine de femmes creusent pour trouver du sable. Parmi elles, Tamise Demostène, 32 ans, mère de deux enfants. Elle a rompu avec son mari il y a 6 mois. Accroupie dans un gros trou, une pioche à la main, elle creuse le sol. Elle protège son visage de la poussière avec un mouchoir noir.
Ici, c'est notre commerce, c'est notre jardin. C'est le travail que je fais pour payer les frais scolaires de mes enfants. Des personnes meurent sous nos yeux, mais on reste là parce que c'est ça qui nous donne à manger. On est obligé parce qu'on ne peut pas rester sans rien faire. Même si tu te lèves un matin et que tu ne te sens pas bien, tu es obligé de venir parce que tu n'as pas d'autre endroit où aller pour trouver quelque chose à donner à tes enfants qui pleurent derrière toi.
Un peu plus loin, Isalène Ménard, 25 ans, mère de 4 enfants, est dans une grotte. Elle est couverte de poussière et de sueur. À l'aide d'une pelle, elle ramasse le gravier au fond d'un trou qu'elle a creusé, puis le renverse sur une grille soutenue par 4 poteaux afin de récupérer le sable le plus épais, recommandé pour la construction des dalles en béton de la maison. Elle a perdu son mari en 2016. Ce fut le début de son calvaire.
Quand mon mari était là, j'avais un petit commerce. Mais depuis sa mort, je dois faire ce travail pour pouvoir prendre soin des enfants. Tu vois mon ventre ? Ce travail est très épuisant. Tu ne peux pas le faire sans manger quelque chose avant. Sinon, tu t'évanouis de faiblesse. C'est parce que je n'ai pas le choix que je fais ça, parce que je n'aime pas cette activité. On peut dire que ce travail envoie bon nombre de femmes dans leur tombe. Quand on creuse profondément, les remblais nous tombent dessus.
En effet, ce travail est très dangereux. Malheureusement, ces mamans célibataires doivent continuer à le faire jusqu'à la mort. Au milieu du lit de la rivière, une vieille dame frisant la soixantaine est accroupie au sol. Un petit bout de bois à la main, elle rassemble un petit lot de sable qu'elle va devoir transporter jusqu'à la digue à l'aide d'un récipient. Elle fait ce travail depuis son adolescence. Aujourd'hui, elle est épuisée.
Je ne sens plus mes jambes, je ne peux donc plus creuser. C'est ce monsieur qui creuse pour moi. J'en peux plus, je ne trouve pas autre chose à faire dans le pays. Il n'y a que ça à faire.
Ce travail n'est pas seulement dangereux pour ces femmes, c'est également le cas pour l'environnement. En fait, l'espace dans lequel ces mères célibataires récupèrent le sable est une rivière qui facilite l'évacuation des eaux venant des montagnes avoisinantes. Ah, oui. Creuser tout le bord de la rivière risque de provoquer des inondations, selon l'agronome Jonas Jeudi, que nous rencontrons à quelques mètres de là.
En principe, actuellement, ce qu'on devrait faire, c'est amender les sols. C'est ce qu'on appelle la correction des ravines. C'est sur cette tâche que l'on devrait se concentrer. Or, malheureusement, au lieu de protéger les rivières, on ne fait que les dégrader. Parce que lorsqu'on creuse tout autour de la rivière, eh bien, ça peut causer des inondations, car l'eau perd son lit naturel.
En Haïti, malgré le code civil fait l'obligation aux hommes de verser une pension alimentaire aux femmes après le divorce pour subvenir aux besoins des enfants, cette loi n'est pas souvent respectée, car peu de victimes connaissent leurs droits. Soucieuses de l'éducation de leurs enfants, elles sont prêtes à faire n'importe quelle activité pour y parvenir, même au risque d'y perdre la vie. Ronel Paul Legonaïve, RFI.
Direction Houston maintenant, plus précisément le cimetière d'Hollywood, le plus ancien cimetière afro-américain de la ville. Il fait partie de ces sites de mémoire des routes de l'esclavage de l'UNESCO. C'est là que sont enterrés les premiers afro-américains libres de la région après l'abolition de l'esclavage le 19 juin 1865, c'est-à-dire 2 ans après le nord des États-Unis. Et ce travail de mémoire, il passe par la restauration et l'entretien des tombes, comme vous allez l'entendre dans ce reportage de Thomas Arms à Houston.
Au cœur de Houston, ils sont une dizaine à tondre l'herbe et nettoyer les tombes. Taylor Linson et son frère récupèrent les débris qui sont sur les pierres tombales.
Beaucoup de gens enterrés ici étaient des esclaves qui ont été libérés 2 ans plus tard que les autres aux États-Unis. C'est vraiment important pour nous de leur rendre hommage et de veiller à ce que leur tombe reste belle.
Dans le cimetière d'Hollywood, 900 sépultures ont été mises au jour, mais on estime que 4000 personnes ont été enterrées ici. Des anciens esclaves, les premiers habitants des quartiers noirs libres de Houston. Margot Williams est la présidente de l'Association des descendants d'Hollywood.
Même si en 1865, les esclaves ont été libérés officiellement, beaucoup de gens ont continué à travailler dans les plantations parce qu'ils ne pouvaient aller nulle part ailleurs. Les fondateurs des communautés noires à Houston ont créé des associations, des clubs. Ils ont ouvert des magasins et des commerces. Car si en 1865, on était libre, dans la plupart des endroits, on devait emprunter une entrée dérobée quand on n'était pas simplement interdit d'entrer.
Quand elle a voulu y enterrer sa grand-mère en 1999, Margot Williams est arrivée dans un terrain envahi par la végétation, laissé à l'abandon depuis une trentaine d'années. Étant sur un terrain privé, la municipalité n'avait pas voulu investir dans ce cimetière. Aujourd'hui, un tiers des tombes et des plaques ont été dégagées par les archéologues et des volontaires. Et pour transmettre l'héritage de cette histoire noire de Houston, l'association des descendants d'Hollywood organise des visites du cimetière. Pour Zion Escobar, qui dirige le centre de conservation de Freedmanstown, un quartier fondé par des esclaves devenus libres, les vieux cimetières afro-américains comme celui-ci sont un pan essentiel de la mémoire de l'esclavage.
C'est comme trouver les pièces d'un texte sacré dans un lieu caché. Plus vous le protégez, plus vous pourrez en tirer des récits et faire revivre l'histoire. C'est ici que toutes les légendes, tous les personnages de l'histoire des quartiers noirs de Third, Fourth et Fifth Ward ont fini. Si vous ne protégez pas ce lieu, leurs histoires entières disparaissent pour toujours. Leurs biens ont disparu, la plupart de leurs maisons et bâtiments aussi. C'est donc ici que l'on peut venir pour se souvenir. Et les descendants qui protègent leur mémoire permettent à l'histoire de ne pas s'effacer.
Signe de l'importance du site, le cimetière d'Hollywood a été classé cette année parmi les 11 sites les plus en danger par le National Trust for Historic Preservation aux États-Unis. Une reconnaissance et surtout une chance, car dans d'autres villes américaines, bon nombre de ces cimetières à l'abandon ont été réquisitionnés et des promoteurs ont construit dessus. Paul Jennings coordonne les travaux de recherche à Hollywood.
Il y a des centaines, voire des milliers de cimetières afro-américains et de très nombreux caveaux sur des parcelles familiales dans tout le pays. Et énormément ont été détruits. Je viens de lire qu'en périphérie de Richmond, en Virginie, il y a sous une bretelle d'autoroute un cimetière avec 22 000 tombes sans aucune plaque commémorative. D'une certaine façon, on a eu de la chance de pouvoir préserver le peu que l'on a.
En février dernier, une loi, l'African American Burial Ground Preservation Act, a été présentée au Parlement américain pour aider à rechercher, identifier et préserver les lieux de sépulture des Afro-Américains. Elle pourrait être adoptée à l'automne. Thomas Arms, Houston, RFI.
Le journal de la première avec Benoît Ferrand aujourd'hui. Bonjour Benoît.
Bonjour Marie.
La CTM, la collectivité territoriale de la Martinique, lance un nouveau dispositif pour les jeunes précaires. Deviens ce que tu es.
Dispositif qui proposera à des jeunes de 16 à 25 ans, 1500 dans un premier temps, un revenu émancipation jeune, 500 à 700 euros, pour leur permettre de tester une nouvelle activité. Audrey Talibardol est la conseillère territoriale en charge de la jeunesse. Elle est au micro de Corinne Jean-Joseph.
Pendant une année, nous irons au plus près des jeunes pour leur permettre d'avoir ce que j'appelle le droit à l'erreur. On a le droit de pouvoir changer de filière et de pouvoir le faire dans un cadre que la collectivité a défini et qui permet à chaque jeune de pouvoir changer de filière, changer de branche et puis d'embrasser différents domaines, qu'ils soient culturels, sportifs, que du jour au lendemain, qu'ils se disent « mais ça y est ». Finalement, ça ne me plaît pas. Je peux aller découvrir d'autres types de métiers. Alors, c'est vrai que nous n'allons pas faire seuls au sein de la collectivité. Nous allons vraiment nous appuyer sur les missions locales, sur les associations qui seront capables d'aller au plus près de ces jeunes et de pouvoir aussi les accompagner. C'est vraiment changer un peu l'image qu'on a aujourd'hui de vouloir mettre les jeunes dans des cadres. Là, on va construire avec lui.
Martinique, suite, malgré toutes les vicissitudes passées ou présentes, elle aurait eu plutôt tendance à repartir dans le bon sens en 2021. Elle, c'est l'économie martiniquaise. C'est en tout cas l'avis autorisé de l'INSEE et de sa chef de la division Action régionale, Isabelle Padra-Ribello. Elle est au micro de Jean-Baptiste Anatole.
On peut parler de reprise contrariée parce qu'il y a eu pas mal de pics et pandémiques, des mesures sanitaires restrictives et les mouvements sociaux en fin d'année. Malgré tout, tout cela, on est sur une croissance du PIB à 2,5% et on est sur une dynamique économique avec une bonne orientation de l'emploi, de la création d'entreprises, à la fois aussi de la consommation des ménages, des investissements. Mais, comme vous le savez tous, notre tourisme est en souffrance et avec une activité réduite de 41%. On peut dire qu'on est sur une bonne orientation pour l'économie martiniquaise. Donc, malgré cette reprise timide, on garde espoir sur une belle orientation de notre économie pour les années prochaines.
Et sur cette nouvelle encourageante, eh bien, bon week-end de Marie, à lundi.
Merci Benoît Ferrand et à lundi. Merci à vous d'avoir suivi ce journal réalisé par Diego Tenorio. Prochain rendez-vous lundi, 15h10 heure de Paris, 9h10 heure de Port-au-Prince. Semaine spéciale à partir de lundi, un an après l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. Où en est l'enquête? Dans quel contexte se trouve le pays un an plus tard? On fera le point toute la semaine prochaine. D'ici là, très bon week-end à tous.